Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain. And so will we. With annual reviews to keep you on our best possible tariff. Because deal or no deal, from Downing Street to the High Street, every business is part of something far, far bigger. Find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness. Based on an annual review of activity for businesses with up to a £2 million turnover.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Rousse à nous.
Il a tué la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot. Timothée Mémon.
22h02 de retour dans l'after jusqu'à minuit. Vous nous appelez au 32-16 pour parler avec nous. Vous nous rejoignez sur Direct Studio. Merci d'écouter l'after. On va aborder dans les minutes qui viennent et bien l'évolution de la communication chez les footballeurs à travers les réseaux sociaux, ce que cela a changé au fil de la décennie qui vient de passer. Juste avant cela, un tour du côté de notre direct avec un bon coup franc pour Liverpool. Liverpool Sheffield United, c'est avec Clément Brossard.
C'est reparti depuis une minute, le coup franc pour Anderson, oh Robertson plutôt, c'est passé juste devant la cage de Dean Anderson et personne pour le reprendre. Van Dijk qui était pas loin là de faire le break, puisque Liverpool mène 1-0 grâce à Mohamed Salah à la 4e minute. Liverpool qui fait cavalier seul en tête de Premier League 30 ans après le dernier sacre. Ils sont en train de mettre tout le monde d'accord en Angleterre et de prendre provisoirement 13 points d'avance sur son dauphin Leicester, 14 sur Manchester City. Faire le trou, c'est l'ambition de Jurgen Klopp ce soir. Pour l'instant, ça marche bien. 48e minute de jeu, 1-0 pour Liverpool face à Sheffield United.
13 points d'avance et un match en moins pour les Reds de Liverpool qui semblent filer vers le titre. On va donc parler, messieurs, de l'évolution de la communication chez les footballeurs. Damien, tu nous donneras ton avis tout à l'heure, parce qu'évidemment, les réseaux sociaux ont changé clairement la vision qu'a le public des footballeurs. Est-ce que les réseaux sociaux ont rapproché les footballeurs de leur public? On se posera cette question. On se demandera aussi si cela est parfois un piège, si les zones d'ombre ont disparu pour les footballeurs. Et puis surtout, en deuxième partie de débat, on s'intéressera sur comment prévenir, comment aider, comment éduquer les joueurs, ceux de l'avenir, justement à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Alors, pour parler de ce sujet, Boris Helleux, qui est maître de conférence à Staps Caen, nous a rejoint. Bonsoir Boris.
Et bonsoir tout le monde, merci de l'accueil.
Merci à vous d'être avec nous et de venir nous apporter votre analyse. Vous êtes un spécialiste de ce sujet. Autre spécialiste, Valérie Brancaleoni, il est avec nous, il est le community manager chez nous ici à RMC. Bonsoir Valérie.
Bonsoir tout le monde.
Salut. On posait la question en début d'émission, quel vœu tu ferais pour le football en 2020?
Moi j'en ai deux. Le premier, un titre de champion pour l'Inter cette saison. Et le deuxième, qu'on conserve Lautaro à la fin de la saison. On a perdu Icardi la saison passée déjà, donc ça ferait beaucoup.
Je ne savais pas qu'il était intériste, Giscard.
Oh. Eh bien, ça paraît réalisable, ceci dit. C'est l'avantage. Ce n'est pas des souhaits trop irréalisables. Alors, Valérie, la décennie qui vient de passer, on l'a dit, a été celle de l'émergence des réseaux sociaux à l'échelon de la société dans son ensemble. C'est aussi ces réseaux qui ont modifié la vie de tous les personnages publics. Ce qui nous intéresse ici, c'est les footballeurs.
Oui, en effet, Timothée, le dérapage de Serge Aurier en 2016 reste un des cas d'école de la décennie passée. Alors qu'il était titulaire au PSG, l'ancien joueur des Spurs s'est fait remarquer sur l'application Periscope où il avait insulté de fiotte Laurent Blanc. Et cet incident a d'ailleurs une conséquence direct sur son avenir, puisqu'il avait été transféré la même saison de mémoire en première ligue. D'ailleurs, depuis 2010, les médias sociaux sont progressivement entrés dans la culture des joueurs et des clubs de foot. Leur progression est un peu vertigineuse, d'abord sur Facebook et Twitter, ensuite sur Instagram et Snapchat pour les plus connus. Et le meilleur exemple reste Cristiano Ronaldo, qui compte aujourd'hui 81 millions de followers, 122 millions de fans sur Facebook et 195 millions sur Instagram.
Il fait plus d'argent, c'est ça, sur les réseaux sociaux? J'avais vu passer ça là. Quasiment autant d'argent sur les réseaux sociaux que son salaire à la Juve, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Ouais, effectivement, ça permet de doubler certains salaires. Alors là, tu nous parlais de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, mais pour le joueur lambda, est-ce qu'il est aussi concerné par cette modification ?
À toute proportion gardée, oui, mais du coup, les réseaux sociaux n'empêchent pas en fait d'être un média à part entière pour un joueur, et les exemples en fait ne manquent pas. Ça peut être festif avec les coulisses du vestiaire des Bleus lors de la dernière Coupe du Monde. Ça peut être humain, et je pense notamment à des joueurs de Ligue 1 ou de Ligue 2. Manu Moreau, Nicolas Benezé ou anciennement Pierre Boubi, qui sont très second degré sur Twitter, ou sportif à l'image de Loïc Diony, qui avait annoncé son prêt de Saint-Étienne vers Bristol sur son compte Instagram. Et d'ailleurs, ce nouveau mode de communication a bouleversé en fait tout un univers. Les clubs d'abord qui se servent de la notoriété d'un joueur pour aller à la conquête de nouveaux marchés. Je pense notamment à l'arrivée de Beckham au PSG, ou à moindre échelle la signature d'Ochoa à l'époque à l'AC Ajaccio, mais aussi l'approche du métier de journaliste, puisque les comptes de joueurs sont devenus aujourd'hui une source d'information.
Alors il y a certains comptes plutôt réussis, d'autres un peu moins, et parfois l'utilisation de ce moyen de communication n'est pas toujours forcément très, très heureux.
Ouais, et puis le meilleur exemple reste les rumeurs sportives, notamment le transfert de Cavani à Naples à l'été 2016. Des centaines de supporters napolitains s'étaient massés devant l'hôtel Vesuvio, malgré les communications du joueur du PSG la veille et l'avant-veille sur Instagram. En gros, il faisait ses messages en fait étaient orientés autour du club parisien. Et les réseaux sociaux marquent aussi la disparition entre la sphère publique et privée. Avant leur émergence, un cliché restait dans le premier cercle. Tu partageais ça avec ta famille, avec tes amis, mais rarement plus. Aujourd'hui, le moindre écart peut être publié en deux clics et prendre d'énormes proportions en bien comme en mal. Et en décembre dernier, donc il y a eu également le cas de la fiancée de Sterling, qui a littéralement viré une jeune femme qui twerkait avec le joueur de Manchester City. Et un des comptes Twitter qui a repris la vidéo aujourd'hui comptabilise plus de 500 000 vues. Donc saut autant de vues, je pense qu'il y a un coup de gueule de Daniel sur l'after.
Ouais. Il y a aussi le drame là qu'il y a eu entre la femme de Jamie Vardy et celle de Rooney. C'est sur Instagram ça.
Ouais, c'est absolument.
Il y a aussi Martial
avec l'une qui avait piégé l'autre.
Martial montre l'anus. Ouais, ça, oui, c'est vrai que bon, c'est un cas d'école aussi. Bon,
alors on va essayer de se pencher sur, on va dire, l'aspect le plus théorique et peut-être le moins graveleux, si possible, de ces réseaux sociaux, si vous le voulez bien. Boris Hello, donc
vous êtes... ta transition, elle est pas terrible, hein, parce qu'entre ce qu'il parle et de pencher derrière, quand même.
Bravo, bravo Damien.
Boris Hello, vous êtes maître de conférence à Staps à Caen. Merci encore d'être avec nous. Alors d'abord, est-ce que l'arrivée des réseaux sociaux a réellement changé la vie des footballeurs au cours de ces 10 dernières saisons ?
Ouais, à l'évidence. Je pense que Damien pourra confirmer, mais je pense qu'il y a deux changements majeurs qu'on peut identifier. Le premier, c'est bien entendu la façon dont les footballeurs communiquent. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'un footballeur, et là je parle au regard de l'opinion publique. Un footballeur a toujours été mal perçu. On va le considérer qu'il est trop payé, qu'il est tout juste bon à taper dans un ballon. Alors lorsqu'il s'agit de faire des phrases, c'est un peu plus compliqué. Et en fin de compte, les médias sociaux ont permis aux footballeurs de reprendre la parole, de retrouver une légitimité de prise de parole pour faire valoir des opinions qui dépasse souvent le cadre du terrain. C'est aussi avec les médias sociaux qu'on a vu que certains footballeurs étaient drôles, parce que le football s'est toujours un petit peu pris au sérieux. Le deuxième changement important, Valérie l'a souligné tout à l'heure, c'est l'élan sympathique que ça a créé autour des footballeurs. La bascule s'est faite à l'occasion de la Coupe du Monde 2008, puisqu'avec tous les insides sur Snapchat, on a pu suivre l'épopée des Bleus de l'intérieur. Donc, et ce qui revient énormément également dans les propos des footballeurs, c'est que avec les médias sociaux, ils peuvent enfin être eux-mêmes, c'est-à-dire pouvoir être drôles, pouvoir faire des blagues comme ils font avec leurs copains, et en tout cas être perçus pour autre chose que ceux qui sont sur le terrain.
Alors justement, Damien, là, par rapport à ce que vient d'expliquer Boris, est-ce que tu as ressenti ce changement, et la question qui en découle, est-ce que c'est pas aussi quelque chose d'un peu égotique, les réseaux sociaux, pour des joueurs, on va dire des joueurs lambda entre guillemets de championnat, de dire j'existe aussi par autre chose que mon sport.
Ouais, il faut savoir ce que t'en fais du réseau en soi. C'est quel message tu veux faire passer, quelle image aussi tu as envie de donner de toi. Je me souviens, moi j'ai partagé le vestiaire avec Manu Imoru à Clermont à l'époque et avec Pierre Boubi avant à Amiens par exemple. Et au début j'étais un peu dans cette mouvance de vouloir sortir une connerie ou deux sur Twitter, tout ça. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait ça pouvait être plus dangereux. Enfin, je l'estimais plus dangereux qu'autre chose pour la réputation du joueur. Donc, moi, j'étais plus dans l'aspect, non, je suis joueur de foot et je fais attention à la communication et aux dangers que peut avoir Twitter ou Facebook ou Instagram. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer dans ce piège-là. Après, quand on suit un peu ce que fait Manu et Pierre, bon, eux, ils sont à fond dans le second degré. Ils peuvent s'en prendre, s'en ramasser plein la tête à la suite d'un tweet où eux, ça leur pose pas de problème. Donc, tant mieux pour eux. Le gros changement qu'il y a eu avec ces réseaux, c'est la proximité que les supporters ou les fans peuvent avoir avec le sportif ou même avec le journaliste comme Daniel qui fait souvent référence à Twitter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut venir te parler si t'as envie. Tu peux avoir l'avis de n'importe qui. Ça peut être le mec qui ne connaît rien au foot et qui dit tiens, de toute façon, toi t'es une brêle. Alors ouais,
c'est une fausse proximité.
Ah mais c'est vachement mesquin comme procédé de toute façon. Mais avant, quand tu te faisais siffler dans un stade par 20 000 spectateurs, voilà, c'était une masse en gros et tu pouvais pas en retirer un ou mettre un visage sur quelqu'un ou quelque chose. Alors que là, avec le réseau,
là t'as un mec anonyme qui va venir.
C'est un mec avec un pseudo et puis une photo où c'est même pas sa tronche, tu vois.
Voilà, ouais. Donc c'est
assez lâche.
Mais ça après c'est de la lâcheté en effet, mais c'est la déviance du réseau.
Les réseaux sociaux ont surmultiplié la lâcheté intrinsèque de bon nombre de personnes.
Elle a permis l'expression de la bêtise au grand jour, quoi. Celle qui était cachée, qui avait honte de s'exprimer.
Derrière le petit clavier, là, alors que en face.
Mais la bêtise des joueurs aussi, hein. Aussi.
Non, mais bah, pour en revenir aux joueurs, parce que c'est ça le sujet.
Absolument.
Oui, il y a ce besoin de contrôler, de mettre en avant l'image. Il y a aussi toute une dimension business, parce que certains peuvent vendre des produits indirectement, parce qu'ils se mettent en avant comme une marque. Finalement, ils deviennent un produit. Il y a eu une question à un moment, c'était est-ce que le fait que, comme disait notre ami, notre invité, on puisse suivre les coulisses de la dernière Coupe du Monde par le biais des réseaux sociaux, est-ce que le fait qu'un joueur puisse se raconter ses sensations, est-ce que ça allait faire du mal aux médias finalement et à notre métier à nous? Parce que il y avait plus besoin justement du média qui, dans son expression première, veut dire le mec qui est au milieu,
l'interface.
Au final, on s'aperçoit que non, parce que les gens ont également besoin d'avoir quelque chose de plus neutre. Parce que si le mec contrôle, dit ce qu'il est, dit ce qu'il pense, on sait bien que il se raconte. C'est un regard totalement subjectif. Et les gens ont également besoin des gens qui, comme nous, qui vont intervenir pour donner leur avis, pour critiquer, pour commenter.
C'est que ça permet aux gens de s'intéresser encore plus au foot lui-même.
Oui,
et que du coup, ça démultiplie la passion autour du sport.
Et qu'en fait, voilà, ça permet d'avoir un regard différent. Ça multiplie les points de vue. Il y a le joueur qui se raconte, qui se vend, qui se met en avant, qui raconte tout, sa femme, ses enfants, comme fait Marquinhos par exemple, qui est très actif. Icardi, bon, c'est comme tu disais, mais c'est plus par rapport à sa femme, quoi. Voilà, mais après, les joueurs, les gens, le public, une fois qu'ils sont au courant qu'Icardi se fait dorer le cul aux Maldives, derrière, ils ont aussi envie de savoir ce qu'on pense de ses prestations, de comment il est. Mais ne négligeons pas, mine de rien, les petites informations qu'on peut avoir à travers.
Quand un joueur s'abonne au compte Instagram d'un club, on dirait, tiens.
Voilà. Ce qui peut sembler n'être parfois qu'une, un résidu de télé-réalité, je sais pas, toujours prenons l'exemple Icardi sur la plage aux Maldives avec sa femme. Non, parce que ça a une incidence sur ce qu'il est, ce qu'on peut retrouver ensuite sur le terrain. Bah, le cas d'Icardi, savoir le rôle que joue sa femme dans sa vie et les problèmes que ça a pu lui poser dans sa carrière et notamment à l'Inter, bah ouais, si tu suivais les réseaux sociaux et tu voyais bien que entre guillemets elle portait la culotte, en tout cas elle avait un rôle très important, d'abord parce que c'est son agent et qu'en plus elle est très forte en personnalité, bah que...
t'as pas besoin des réseaux sociaux pour le savoir ça, hein.
Mais bah non, à partir du moment où t'as une mise en scène quotidienne où tu vois vraiment que... et ça tu l'as pour plein d'autres joueurs, il y a des petites infos à choper par-ci par-là aussi dans leur mise en scène.
Valérie Brancel a parfaitement raison. D'ailleurs, souvenez-vous, au moment des rumeurs de transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, tout le monde était au taquet sur ses médias sociaux pour voir si un emoji ne trahissait pas éventuellement.
Et puis la story de Piqué, là, Sekeda.
Un déplacement à Paris.
Enfin, le tweet de Piqué, Sekeda.
Voilà, exemple, c'était l'inverse d'une info.
Exemple, ouais. Et puis tout à l'heure, par exemple, Jonathan a posé une question que tout le monde a éludée. Meilleur film de la décennie, bien entendu, c'est Mad Max. Meilleur album, bien entendu, c'est Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly.
Bah, moi, le meilleur film de la décennie, c'est évidemment La Grande Bellezza.
Il n'y a pas que ça, mais ça peut être intéressant.
Ouais. Alors, Boris, hello, vous êtes maître de conférence TAPS. À quand, juste avant?
Qu'est-ce que vous avez
la parole? La parole à
Mad Max?
Moi, j'ai dit La Grande Bellezza.
Mais Mad Max, lequel?
Le reboot?
Non, le Fury Road, Daniel.
Ah oui.
En moment de cinéma.
On y reviendra, Boris et Daniel. Juste, Valérie, il y a une évolution, notamment par exemple dans les consignes de communication entre les Coupes du Monde de cette dernière décennie.
Ouais, alors moi, je me souviens en 2014, j'avais un blog qui traitait justement de la thématique et la communication autour de l'équipe de France en fait était vérolée et les consignes également qui étaient passées aux joueurs en fait étaient de ne pas tweeter ou de très peu tweeter sur les réseaux. Et quand on regarde la Coupe du Monde 2018, il y a une étude qui a été faite. L'équipe de France était la plus populaire avec 4 millions de tweets. Des joueurs comme Mbappé, Pogba ou Griezmann ont gagné 9 millions, 5 millions et 4 millions d'abonnés sur toutes les plateformes sociales. Donc c'est on voit bien en fait une évolution en fait
en c'est rentré dans les mœurs tout simplement.
Voilà, ce qui est marrant, c'est de se dire que en 2014, on savait pas encore trop exactement ce que c'était, donc on préférait tout verrouiller et en 2018 mais... on a dit bon, ça fait partie du jeu.
Une chose à pas oublier, c'est qu'en 2014, le sélectionneur était Didier Deschamps en équipe de France, qui lui était déjà un peu réfractaire. Et en 2018, c'était le même sélectionneur, du coup, qui a un peu changé son regard par rapport aux réseaux sociaux.
Mais il y a quand même une chose qui moi me frappe en fait dans les réseaux sociaux et les footballeurs en général, c'est que je pense que là, on est en train dans une autre périodicité où il y a eu beaucoup de dérives, que ce soit avec des scandales qui ont éclaté. Je pense en Amérique latine avec la sélection chilienne, enfin des joueurs de championnat chilien, des histoires un petit peu sordides. Il y a eu l'épisode Serge Aurier, il y a eu les épisodes de femmes, de joueurs qui commandent les choix d'un entraîneur. Et je pense que là, j'ai l'impression qu'on est dans une autre période qui est celle où les joueurs ont pris totalement conscience des dangers qu'ont les réseaux sociaux et où leur communication sur ces 10 réseaux s'aseptise et devient un petit peu standard et sans vraiment, il n'y a plus vraiment de grands intérêts. Je l'aime beaucoup, mais je prends par exemple le compte de Morgan Sanson, c'est juste des robinets d'eau tiède et des pubs déguisées pour Puma. Et il y a de plus en plus de joueurs où c'est le cas. Et c'est dommage parce que moi, il y a des joueurs qui s'en servent et qui se rendent sympathiques. Je pense à Benjamin Mendy, par exemple. Moi, je pense aussi je suis fan de lui, mais à Joey Barton, son compte Twitter, c'était un vrai régal parce que ça ne parlait pas que de foot et ça parlait de plein d'autres choses et de manière très intelligente.
Mais, non, mais ça, c'est quand même. Un joueur de foot parce que lui, c'est fini.
Oui, mais c'est un exemple quand il était joueur. Il est entraîneur d'ailleurs à Fleetwood. Et j'ai l'impression que ça a tendance à devenir de plus en plus une denrée rare et qu'on parle d'Imoru et de Boulbi et de Benjamin Mendy et compagnie parce que ça reste des exceptions au final.
En tout cas, on va y revenir. Belle passe décisive de la part de Jonathan, puisque dans la deuxième partie de ce talk, notamment avec vous, Boris Helleux, qui êtes maître de conférence à Staps Caen, eh bien on va justement aussi se poser la question de comment préparer la jeune génération, comment se servir à proprement en parler de ces réseaux sociaux, comment s'en servir aussi pour aller au-delà du message humoristique. On sait qu'il y a des sportifs américains comme Kaepernick en foot US, Rapinoe, qui eux se servent des réseaux sociaux pour prendre des positions fermes, ce qu'on fait pas du tout en France. On parlera tout ça dans un instant. On revient dans l'after. On va juste faire un tout petit détour par Anfield, Liverpool, Sheffield United avec Clément Brossard.
La 63e, 1-0 toujours pour les Reds, le 10e but de Mohamed Salah qui a lancé cette équipe de Liverpool vers peut-être une 51e victoire de suite à domicile à Anfield. Mais attention, faut pas enterrer cette équipe de Sheffield qui est déjà revenue face à Tottenham, déjà revenue également face à Chelsea. Rien n'est joué encore. 64e minute de jeu, 1-0 pour Liverpool face à Sheffield United.
On continue à parler foot et réseaux sociaux. À tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot. Timothée Mémon.
22h22, faites un vœu de retour dans l'after pour la suite de cette émission. On va continuer à parler de réseaux sociaux, de communication, parce que véritablement ces réseaux sociaux ont changé clairement eh bien les choses entre les supporters et les joueurs, pour les joueurs eux-mêmes, pour les groupes de communication également qui s'occupent des différents clubs. Juste une question, messieurs. Avant de se pencher et de basculer sur le côté avenir, comment est-ce qu'on va éduquer d'une certaine manière les footballeurs à la gestion de leurs réseaux sociaux, j'ai cette question sur la proximité. On l'a abordé tout à l'heure. Est-ce que c'est pas effectivement simplement un sentiment de façade de penser que les réseaux sociaux favorisent une certaine proximité entre le fan et son footballeur favori, alors qu'en réalité peut-être que ça met encore plus de distance géographique et que le joueur va peut-être un peu moins faire de terrain, un peu moins de choses en dehors à la sortie de l'entraînement
Je pense pas. Franchement, je pense pas, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui répondent aux supporters. Il y a une question qui serait intéressante d'intéresser, c'est nous dans le rôle qu'on a, la manière dont on peut interagir plus facilement avec les joueurs. Ça, je pense, que ça serait intéressant d'en parler. Parce que c'est pas un secret de polichinelle, mais c'est fréquent que des joueurs ou voire des entraîneurs nous envoient des messages sur les réseaux sociaux, enfin un message privé sur les réseaux sociaux pour dire je suis pas d'accord avec ce que t'as dit, etc. Et il faut dire que ça permet quand même pas mal d'échanges que je pense pas qu'on pourrait avoir aussi facilement.
Il y a quand même beaucoup de joueurs ou d'entraîneurs avant les réseaux sociaux qui sortaient leur téléphone et qui t'appelaient pour t'engueuler.
C'est plus spontané, je pense. C'est plus facile d'envoyer un DM sur Twitter que de faire la démarche de trouver le numéro de téléphone du mec ou si tu l'as pas et de, tu vois, de prendre contact.
Moi, j'avais fait un travail. On évoquait tout à l'heure Manu Emuru, Nico Benezé ou Pierre Boubi. J'avais analysé leurs tweets. Et si vous prenez quelqu'un comme Manu Emuru, il y avait quasiment 80% de ses tweets étaient finalement des interactions avec des tweetos. Alors ça pouvait être d'autres footballeurs et puis le plus souvent c'était des fans. Et on sait que d'ailleurs Manu est devenu ami avec des personnes qu'il a commencé à suivre sur Twitter.
Valérie Mancalé.
Moi je pense que c'est une ouverture plutôt qu'une fermeture, dans le sens en fait où aujourd'hui un footballeur qui joue à Paris ou à Londres, ses fans en fait ils sont pas qu'à Paris ou à Londres, ses fans ils sont au Brésil, ils sont en Indonésie, et vis-à-vis de ses supporters, vis-à-vis de ces personnes-là qui peuvent pas les atteindre au quotidien, justement parler avec eux, échanger avec eux sur les réseaux, c'est un moyen du coup d'avoir plus de proximité.
Ouais, mais c'est surtout après, quoi qu'il arrive, le joueur, même s'il ne répond pas, il lit. Oui. Dans la grande majorité des cas, il va lire ce qui se dit sur lui parce que c'est comme ça. Mais... hein. C'est comme à l'époque, t'avais ta note dans l'équipe, tout le monde disait ah non, moi je vois pas la note. Tiens, tu parles. T'essaies de l'éviter, mais au bout d'un moment, tu regardes, tu jettes un œil, c'est la même chose. Et parce que c'est le joueur qui est comme ça clair. Et tu veux savoir aussi ce qui se dit sur toi. Et c'est quelque chose d'humain. Mais
par contre, la question qu'on peut se poser, c'est on parlait de Pierre Boubi, de Manu Emuru. Vous pensez pas que la liberté de ton qu'ils ont pu ou qu'ils ont sur les réseaux sociaux, c'est aussi dû au fait que ce soit pas des stars, c'est quand même des joueurs anonymes.
Des mecs anonymes, ouais.
Je pense qu'une fois que tu atteins un certain niveau de notoriété ou que tu joues dans un certain type de club, ça devient très compliqué de faire comme ça. Ouais, Benjamin Mendy, je pense que c'est un peu une anomalie, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il s'est calmé. D'ailleurs, Guardiola l'a calmé là-dessus.
Boris Cello, vous êtes maître de conférence à Staps Caen. La notoriété des joueurs sur les réseaux peut aujourd'hui devenir un argument. On a l'impression, quand on pense à certains transferts, on va dire que le sportif arrive peut-être pas en première position. Il y en a un qui fait l'actualité, c'est celui de Zlatan. On sait qu'il est énormément suivi sur Instagram, que forcément le Milan AC va en bénéficier. Aujourd'hui, bon, un joueur de foot reste un joueur de foot. On lui demande, dans le cas de Zlatan, de mettre des ballons dans le but. Mais au-delà de ça, c'est devenu un argument.
Bon, un argument, c'est beaucoup dire. Disons que ça va être pris en considération. On le sait, certains clubs de foot souhaitent devenir des marques sportives mondiales. En prenant l'exemple du Paris Saint-Germain, le PSG veut conquérir le marché nord-américain, veut conquérir le marché asiatique. Et pour cela, il a besoin de porte-étendard, de porte-parole, et c'est les joueurs qui, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, possèdent une fanbase digitale bien plus importante que celle du club. Alors, il faut le rappeler et le redire, ce qui va rentrer en première ligne de compte, c'est bien entendu d'abord l'habilité sportive du joueur. Mais effectivement, si le joueur dispose d'une fanbase qui peut faire valoir, etc., ça peut être intéressant. Alors cela dit, c'est pas totalement une notoriété. On se souvient de quelques clubs qui, avant même l'apparition des médias sociaux, aller recruter tel ou tel joueur japonais, parce qu'à l'époque, le Japon était un marché émergent, quoi.
Ouais, Nakata, la Roma.
Ouais, et puis il y avait des joueurs au Mans, je serais incapable de vous les sortir, mais.
Mais il était plutôt bon, le japonais, là, oui.
Ouais, qui
était voilà. Bon. Mais il était plutôt bon,
Matsui,
en fait.
Matsui. Il était bon au Mans.
Ouais, après à Saint-Etienne, ça a été une autre histoire. On est d'accord. Mais au Mans, il était plutôt pas mal.
Alors on est toujours avec vous Boris Helleux. Une autre question par rapport aux prises de position, ça c'est quelque chose de particulièrement intéressant. On s'aperçoit que dans certains pays, et là-dessus les États-Unis ont peut-être, on en parlait en début de d'émission avec Mbappé et son américanisation de sa com, on a des sportifs qui prennent position, évidemment Rapinoe en tête après la Coupe du monde féminine qui est allée clairement au clash avec son président Donald Trump. Est-ce que c'est une habitude que l'on risque de voir émerger en France, ou alors au contraire, pour le moment on est en retard là-dessus et ça va durer?
Bah, tu déconnes, Koscielny, il y a eu une photo de lui avec François Bayrou.
Non, je les deux pense sont que ça va durer, parce qu'en fin de compte, ce que cela trahit, c'est la place du sportif français dans la société. Le sportif français, on lui demande d'être performant sur le terrain, mais on lui demande pas son avis sur des enjeux de
société. Non, mais les autres non plus, on leur demande pas. C'est juste à un moment, est-ce que tu as assez de conviction, est-ce que tu es assez... est-ce que t'as assez réfléchi à certaines questions pour pouvoir émettre une opinion? Après, on n'est pas.
Ah, mais certains le font, Daniel. Il y a bien entendu des sportifs qui pensent,
non, mais
etc.
Avoir envie, mais
ça
avoir
fait
envie.
Des décennies qu'on les relègue à des statuts de débile léger parce que c'est un sportif qui n'est pas allé à l'école et qui a passé son temps au gymnase pour s'entraîner. Donc, forcément.
Mais c'est un peu moins vrai. Cette image, elle est un peu passée.
Daniel, moi je te dis, Boris, là, pour l'avoir vécu aux États-Unis, le sportif là-bas est un exemple. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui est bon, qui a être sur un terrain de sport. Et aujourd'hui, en France, on a encore cette place-là.
Attends,
malheureusement,
juste en tant que sportif. Je pense que la différence, c'est qu'aux États-Unis, ton cursus sportif est associé à un cursus universitaire.
Bah, LeBron James, il n'a pas fait l'université.
Non, mais ça, là, tu me cites un cas,
mais
tu as des bourses, en fait, quand tu es sportif, pour faire un cursus universitaire. Donc, t'es quand même obligé d'aller à l'université. En France, mais, c'est un autre schéma.
Mais je veux dire, tu vois la com de beaucoup de sportifs. Et franchement, oui, normalement, c'est vrai, tu passes par l'université. Et ensuite, tu deviens pro à 23, 24 ans. Donc, t'as déjà une maturité certaine en tant que sportif.
Mais même,
t'en as beaucoup qui, à 17, 18 ans, sont là. Tu regardes à Odell Beckham Jr. Bon, bah, aujourd'hui, il peut se permettre de dire des choses, ainsi de suite, mais personne ne va lui tomber dessus. C'est-à-dire que ils vont avoir une liberté de parole, d'expression, qui sera beaucoup plus libre qu'en France.
Le problème n'est pas de tomber dessus, puisque n'importe qui, même un mec ultra diplômé, on lui tombe dessus aussi. Donc tout le monde se fait tomber dessus.
Oui, mais en France, c'est encore plus péjoratif, il faut juste savoir.
Sur le coup, vous mélangez tout. Parce que la vie politique américaine est totalement spectaculisée, et chose qui n'est pas encore le cas en France, même si on y vient petit à petit. Et c'est tout à fait normal, plus naturel aux États-Unis que des personnes allées de la sphère du showbiz ou du sport, ce que tu veux, donnent leur avis, parce que cette grande mise en scène politique qui est
la plupart des
avis politiques, c'est beaucoup des avis sociétaux.
Si des joueurs
avaient envie,
là on parlerait de Noël,
et s'exprimeraient, je vois pas en quoi ça poserait ça.
Donc ça veut dire que Damien, tu penses que par exemple les intellectuels français vous marginalisent et disent il est footballeur, il a rien à dire, alors qu'aux États-Unis les gens disent il est footballeur.
Il y a une tradition en France, mais elle est un peu pas. Il y a une tradition en ce sens pendant des années. Historiquement, oui. Dans notre pays, il y a eu des cassures profondes. C'était les sportifs d'un côté, les intellectuels. Mais c'est un petit peu fini, tout ça, quand même.
Non, mais là, on a un sujet de société.
Mais regardez Vicente Jorasso, comment il a du mal à faire valoir sa candidature. Alors, ok, on peut dire
Il a pas de mal. Il s'exprime sur les réseaux sociaux. On l'invite partout à la télé.
Alors que ses propos manquent totalement de cohérence.
Il débite un sac d'ânerie à longueur de journée. Mais il a le droit de le faire, c'est pas un problème. En plus, ça n'est que mon avis. Il y a des gens qui doivent le trouver formidable.
C'est la réalité. Il débite des âneries.
Oui, non, mais c'est moi. Oui, mais enfin, ce n'est que mon avis. Si des gens veulent l'aimer, moi, je lui donne tous les droits de s'exprimer. Bien au contraire, moi, je trouve ça même formidable que cet ancien sportif ait des idées, quelles qu'elles soient, même si j'en partage même pas la moitié d'une. Mais peu importe.
Damien Perrinel.
Peu importe. La grande différence de lui, qui veut enfermer les gens qui ne sont pas d'accord avec lui.
Il y a l'exemple aujourd'hui d'un sujet de société. Sur les retraites, éventuellement. Aujourd'hui, il y a Pierre Rondeau qui avait fait une étude en disant que les footballeurs allaient être très impactés par cette réforme des retraites.
Les grands perdants, oui.
Exactement. Et qui aurait pu, alors ça aurait pu être une bêtise, mais peut-être qu'il y a un footballeur qui aurait pu avoir le courage de dire, écoutez, nous, on perd de l'argent avec cette réforme des retraites. Mais non, parce que... Mais c'est ça, mais faire grève, mais t'aurais pu en arriver là.
Expliquer que tous les footeux, parce que si c'est un footeux qui gagne une blinde qui dit ça, c'est.
Voilà, mais est-ce qu'il veut
ou
dire.
Ou la retraite, lui, elle est assurée à 35 ans.
Lui, ou même quelqu'un qui se prononce en faveur de cette réforme des retraites en tant que footballeur, on va lui tomber dessus. Ah, mais oui, mais attends, toi, forcément, hein, t'as pas besoin de la retraite de toute façon pour vivre à la fin. Donc je pense qu'il y a une certaine retenue quand même sur les conséquences que peuvent avoir les paroles des footballeurs.
C'est culturel, de toute manière. En France, on a de toute manière une certaine retenue vis-à-vis des idées qu'on peut avoir sur des faits de société, sur l'actualité politique. C'est un peu plus tabou qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'a aucun mal à dire combien on gagne par année et pour quel parti politique on vote. En France, il y a quand même beaucoup plus de revenus et c'est une question de mœurs, en fait. Donc, je peux comprendre qu'en France, la politique pour les footballeurs soit un sujet tabou et soit un sujet glissant.
Après, la question qui serait à savoir, c'est est-ce que c'est pas canassé par les clubs aussi? Vu que le joueur est avant tout salarié d'un club, ouais. Et est-ce que le club.
Et certains clubs prendraient mal que le gars s'implique politiquement et disent moi je vote pour un tel ou un tel.
Je déconne, Mandanda, il était un meeting de Macron à Londres quand il jouait à Londres là.
Ah c'est vrai, c'est vrai.
Il y avait Mandanda, il y avait pas mal de joueurs de foot.
C'est vrai, il y avait pas mal de joueurs de foot.
Comment ?
Les prises de position, c'est pas que des prises de position politiques. Souvenez-vous, la saison dernière, la LFP qui a fait une opération gay friendly avec le bandeau de capitaine. À quel point certains joueurs n'ont pas joué le jeu, par exemple.
Ouais,
donc les prises de position, elles sont aussi sociétales, c'est pas simplement pour qui on va voter.
Bon, Boris Helleux, un dernier point avec vous. Vous êtes maître de conférence STAPS à Caen. On a l'impression qu'aujourd'hui, donc c'est rentré dans la vie quotidienne d'un footballeur. On a mis du temps en France, on a mis beaucoup de temps en France à donner des cours de communication aux jeunes footballeurs dans les centres de formation. Aujourd'hui, on est en train de franchir cette nouvelle étape en leur donnant des cours de gestion de leurs réseaux sociaux.
C'est pas souhaitable non plus. Hein.
Comment le faire intelligemment?
Raison, disons que c'est plutôt de la sensibilisation. On l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Jonathan qui l'a rappelé. Finalement, les footballeurs, parfois, c'est des robinets d'eau tiède sur les médias sociaux. Le plus suivi, c'est Cristiano Ronaldo. C'est probablement la personnalité la moins intéressante à suivre sur Twitter et Instagram. Donc là-dessus, on est d'accord. Donc il ne s'agit pas de calibrer des schémas de pensée ces jeunes footballeurs, mais simplement effectivement leur rappeler des bonnes pratiques. Alors est-ce qu'ils suivent des cours là-dessus? Non, c'est plutôt de la sensibilisation. Le plus souvent, c'est le community manager du club qui va leur donner des bonnes pratiques, de bons exemples. Et de la même façon que ces jeunes joueurs sont sensibilisés à la gestion de leur capital financier.
Il y a aussi un gros danger, et ça je pense qu'il faut que les jeunes joueurs soient sensibilisés à ça. C'est qu'on a vu plein d'histoires sordides. C'est facile sur les réseaux sociaux de rencontrer des nanas, quoi. Et il y a un vrai danger, je pense, que quand t'es jeune footballeur, de t'attirer une palanquée de gens pas forcément très bien intéressés.
Ouais, mais après, je sais qu'en MLS, nous, on a eu, c'est-à-dire que deux fois par an, je crois que c'est même pas des clubs, c'est à la Ligue carrément qui se déplace dans les clubs pour faire de la prévention surtout. Et la première question qu'ils te posent à chaque fois, la première question, c'est est-ce que t'as googlisé ton nom déjà pour savoir s'il y a des photos de toi et l'image qu'on va donner de toi, est-ce que tu t'es fait attraper sur des choses et des machins.
Et quand on googlise Damien Perrinelle, il y a des photos de beaux gosses.
Attention.
Immédiatement le googliser. Moi, je pense jamais à me. Est-ce que c'est important de se googliser?
Bien
je
sûr, c'est important
jamais.
Parce que, c'est l'une des préventions qui était requise en MLS.
Je vais immédiatement te googliser et enchaîner en me googlisant, ce que je ne fais pas.
Pendant que Daniel googlise, une question à Valérie Brancaleoni et à Boris Helleux. Quelques comptes peut-être à nous conseiller, des comptes à suivre. Bon, on a parlé d'Imourou, on a parlé de Pierre Boubi. Il y en a d'autres comme ça qui vous semblent intéressants, qui sortent un petit peu du lot? Boris d'abord.
Ouais, en fin de compte, les comptes à suivre ou les meilleurs comptes, ça dépend un petit peu de quels critères. Est-ce qu'on veut suivre des footballeurs qui sont dans la recherche de notoriété, dans la promotion d'eux-mêmes ou de leur équipementier? Est-ce qu'ils sont plutôt dans l'échange, l'interaction avec les fans, etc.? Moi, ce qui compte à mes yeux, c'est la crédibilité, la sincérité de la démarche. Déjà, un joueur qui anime lui-même ses médias sociaux, ça m'intéresse plus. S'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas grave. Si c'est un petit peu bourrin, c'est pas grave. Je préfère voir Yoann Molo sur Instagram que Cristiano Ronaldo.
On voit à peu près la même chose des abdominaux.
Ouais, alors moi je suis plus sensible à l'humour, à l'interaction. Donc effectivement, alors c'est aussi parce que ils ont joué à Caen, donc Manu Imoru, j'apprécie. Nico Benezé, qui est maintenant en MLS, j'apprécie. Et ce qui est intéressant, c'est que ben ils sont tout de même dans la maîtrise d'une culture numérique. Donc ils comprennent les enjeux et ils savent rigoler avec leurs abonnés.
Valérie.
Ouais, moi je pense pas qu'il y ait de compte forcément particulier en fait à suivre. Après ça dépend. Par exemple, on va pas conseiller à un Marseillais d'aller suivre un compte d'un joueur parisien et vice versa. Je pense que les comptes à suivre sont vraiment en fait en fonction du club ou des joueurs qu'on supporte en fait aujourd'hui.
Il y a pas quelque chose qui a changé, messieurs, là-dessus. On a l'impression, enfin. Moi, je n'ai que 36 ans, mais j'ai l'impression d'aimer un club et pas forcément d'aimer une star. Et on a l'impression qu'il y a certains fans qui aujourd'hui suivent des joueurs.
Ils sont fans des joueurs.
Ils sont fans de joueurs avant d'être joueurs du club.
Ça, c'est la grosse nouvelle tendance.
Ça a changé en fait avec l'arrivée notamment de Canal déjà dans les années 80. En fait, avant le match en fait n'était pas télévisé ou seulement une fois par semaine. Et petit à petit en fait le football a commencé à s'ouvrir en fait à l'extérieur et à partir et notamment avec les réseaux en fait aujourd'hui on peut vraiment être proche en fait d'un joueur. Comme je disais tout à l'heure, même en habitant à des centaines ou à des milliers de kilomètres.
Est-ce que du coup, je suis juste un vieux con de penser que si demain, Romain Amouma signe ailleurs, j'ai pas à le suivre. Moi, je vais rester supporter des Verts.
Et c'est pareil pour moi. Un joueur qui part de l'OM, je m'en fous, c'est fini. Non, mais c'est vrai. Mais bien sûr.
Ah, vous êtes mignon.
Mais bien sûr.
Vous êtes mignon.
Et même Lucho, quand il fait partie de l'OM, je l'ai perdu de vue.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on a appréciés comme ça, qu'on a peut-être pas oublié du jour au lendemain quand même essuyé, mais on reste quand même avant tout
fan d'une institution. Bien sûr, ouais. Ben Chirou qui après il est parti en MLS, mais plus rien à faire de ce qui lui arrivait après, alors que c'était mon joueur favori de l'effectif.
Non, pas forcément. On regarde quand Ochoa donc a débarqué en Corse à l'AC Ajaccio en 2013 de mémoire. En fait, le compte Corse en fait a eu un afflux de.
Mais ouais. C'est pas pareil parce que là tu nous parles du gardien de la sélection mexicaine. Donc à la rigueur, ça peut intéresser les Mexicains parce qu'ils sont très fans de leur sélection. Mais après.
Sauf que les mecs derrière sont aussi sur le compte.
Il semblerait que t'aies pas dit toute la vérité parce que tu suis encore André Pierre Gignac.
Oui, c'est le seul. C'est le seul.
C'est le seul. En tout cas, merci beaucoup Boris Helle d'avoir été avec nous, maître de conférence à Staps. Messieurs, pour conclure, vous avez la sensation que c'est un objet dangereux, que les réseaux sociaux est un média qu'il faut savoir maîtriser globalement. Parce que quand on est jeune, qu'on a 20 ans, que la notoriété arrive, elle est démultipliée aujourd'hui par le prisme des réseaux sociaux.
Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, je pensais que c'est Daniel Boris qui devait répondre.
Non.
Oui, tout le monde cherche à maîtriser cet outil sans y parvenir réellement. T'as bien une personne qui est président des États-Unis, on n'est pas sûr qu'il le maîtrise complètement l'outil. Hein, donc, est-ce qu'il faut s'en méfier ? Oui, globalement. Franchement, j'en sais rien. Difficile de dire. Est-ce que les joueurs doivent s'en méfier et contrôler un petit peu ce qui s'y passe? On essaye tous de le faire, mais c'est un outil qui nous échappe tous un petit peu, hein, quand même.
Ça a été vu comme un danger au début, et je pense qu'aujourd'hui c'est devenu un allié pour la promotion des clubs, justement, des fédérations ou des joueurs.
Ouais, mais quand c'est trop
bon, après là, je vais vous dire, il faut surtout pas tomber dans l'effet inverse, dans l'opposé inverse. Et je vous parlais de quelqu'un qui bosse chez nous, c'est Taylor Lapillus, qui est consultant sur tout ce qui est MMA sur RMC Sport 4. Lui, s'est quand même fait virer de l'UFC parce qu'il avait pas assez de followers sur Instagram. Vous vous rendez compte? Donc j'espère qu'on n'en arrivera jamais à ça, où des clubs se décideront de se séparer de joueurs parce qu'ils sont pas assez populaires, ou de faire venir des joueurs, même si c'est déjà un peu le cas.
Ça compte énormément, ça.
Le virer un joueur en fait parce qu'il a passé de followers, ils le feront pas.
J'espère que ça n'arrivera jamais.
Par contre, aller chercher un joueur parce qu'il a une forte notoriété sur un marché.
Voilà, et ça reste quand même un cas précis.
Valérie Brancaleoni, merci aussi d'avoir été avec nous, tes community manager ici à RMC. Merci pour ton éclairage et ton analyse. On va faire un petit saut en première ligue. Liverpool, Sheffield, Clément Brossard.
Et à 5 minutes de la fin, Liverpool mène 2-0. Le break a été fait par Sadio Mané. Je ne pourrais pas vous donner le nombre de followers. lors de la triplette Mané, Firmino, Mohamed Salah. En tout cas, je peux vous dire que ça fait 27 buts et 15 passes décisives à eux 3 cette saison. Liverpool qui s'envole encore un peu plus vers un titre de champion d'Angleterre qui lui est promis déjà alors qu'on est qu'à la mi-championnat. 5 minutes encore à jouer, 2-0 pour Liverpool face à Sheffield United.
Merci beaucoup Clément, on revient dans un instant parler de l'Olympique Lyonnais et de son mercato. Et puis en dernière partie d'émission, on ira faire un tour avec Julien Laurence en Première Ligue pour vous parler notamment de ce Liverpool Sheffield pardon, et des autres matchs qui se sont déroulés. Il y aura le Mercato Show et évidemment le quiz. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Timothée Mémont.
De retour dans l'after jusqu'à minuit. Vous n'hésitez pas à nous appeler au 32-16 sur Direct Studio pour partager avec nous votre analyse du football et de son actualité. On va eh bien tout de suite partir du côté de Lyon, l'Olympique lyonnais qui évidemment va devoir recruter avec les blessures notamment France, aux ligaments croisés. Non mais là c'est le journaliste qui prend le dessus. Donc là il y a pas de problème. Tout va bien. On va parler de l'OL et on va parler des potentiels recrues pour remplacer Memphis Depay et Jeff Reyne-Adélaïde, tous deux gravement blessés au genou. Il y a eu une conférence de presse aujourd'hui de Rudy Garcia. Je vous propose de l'écouter pour lancer un peu notre débat.
Le mercato, vous savez que je ne suis pas très prolixe en la matière. Moi, j'ai un groupe. Et moi, mon groupe, il doit savoir que je compte sur eux. Maintenant, le groupe, il sait aussi qu'on a eu des blessés et que sur des postes, certains postes en particulier, on est un peu court maintenant en effectif. Donc oui, sur ces postes-là, ça travaille. Flo Maurice le premier avec ses équipes et puis Juni, voilà. Ben, on a perdu deux joueurs offensifs, donc on cherche un joueur offensif. Puis on a perdu deux latéraux, donc on cherche un latéral. C'est pas compliqué.
Rudy Garcia nous parle de deux joueurs perdus en attaque et de rechercher un joueur pour le remplacer.
Je trouve ça de trouver les noms parce que ça, nous, on était également capable d'identifier les besoins de l'OL. Donc Rudy Garcia nous apprend pas grand-chose. Maintenant, reste à savoir quelles sont les pistes et vers quoi le club peut se diriger.
C'est sûr. Et quels sont les moyens, surtout aussi.
Les moyens, j'ai l'impression qu'ils peuvent mettre et qu'ils ont décidé de mettre. Après, il y a est-ce que tu mets sur lui, est-ce que tu te trompes ou tu te trompes pas, parce que les dernières années n'ont pas été reluisantes au niveau du recrutement à Lyon. Donc, il y a aussi la volonté de m'envoyer des mauvais messages.
Le soulagement, c'est que là, dans ce que Rudy Garcia nous dit, c'est que sur le mercato, c'est Florian Maurice et Juninho qui travaillent. Donc, à Lyonnais, soyez rassurés, Rudy Garcia ne fera pas le même carnage qu'il a fait à l'OM.
Et donc, Lucas Touzard reste à Lyon aussi, Jonathan. S'il ne cherche pas un milieu.
Ça, de la même façon.
Ouais. On est d'accord. Il faut l'envoyer. Il faut l'amener à l'aéroport.
Waouh. Quand j'ai vu ça, si c'est vrai et c'est vrai.
Il faut tout de suite.
Mais non, pas forcément.
C'est vrai.
Forcément, parce qu'il faut que tu retrouves quelqu'un au milieu. Il faut que tu retrouves quelqu'un. C'est vrai que tu as l'impression que c'est la méga bonne affaire. Mais si tu n'as plus rien et ce que tu avais cru prendre pour le reléguer sur le banc, parce qu'au début de la saison, c'est un gars qui devait finir sur le banc pour laisser la place à d'autres mecs, de ces autres mecs, notamment je pense à Jean-Lucas, ne se sont pas affirmés.
Non, à la base, c'est Thiago Mendes qui devait prendre sa place devant la défense.
Thiago Mendes joue.
Et comme il n'a pas été bon devant la défense, ils l'ont fait remonter.
Là, si après tu te retrouves sans personne, c'est compliqué à envisager. Mais oui, 25 millions, tu t'es tenté quand même.
T'es tenté, mais c'est lui le titulaire du poste.
Trouvez-moi quelqu'un.
Après, c'est là où on rebondissait là-dessus. C'est que généralement, c'est ce genre d'offres, quand tu les reçois, il faut les accepter parce que tu as anticipé, justement, éventuellement, la solution de remplacement avant même d'avoir eu cette offre. Après, là, sur le mercato de Lyon, même deux titulaires. Non mais même deux titulaires au poste aujourd'hui dans un mercato d'hiver, c'est pas assez, mais c'est super dur de trouver.
Des titulaires du niveau de ce que veut être Lyon et de ce que doit représenter Lyon, bah c'est simple,
Est-ce
qu'on peut demander sur Twitter là à nos auditeurs ce qu'ils nous remettent en mémoire les très bons coups qui ont changé le destin d'un club lors d'une saison qui ont été faits au mercato d'hiver.
Les vrais bons coups du mercato d'hiver. On peut effectivement leur poser la question juste avant d'accueillir Floris qui a fait le 32-16 pour nous rejoindre. Il y a un joueur qui est enfin transférable et je vous pose la question pour voir à votre avis quelle est l'ambition lyonnaise et quels sont les moyens lyonnais. Ziyech pourrait partir de l'Ajax, enfin. L'enveloppe, c'est forcément une énorme enveloppe. Ce serait forcément un transfert record pour l'Olympique lyonnais, probablement entre 40 et 50 millions. Est-ce que pour vous, c'est envisageable?
Est-ce que Lyon peut mettre cette somme-là sur un joueur?
C'est la question que je te pose.
Ils l'ont pas fait jusque là. Est-ce que ils s'affirment sur le marché des transferts comme un club capable de faire ça sans avoir sans donner l'impression que t'y vas, que tu sors le carnet de chèques et que t'as la main qui tremble et que tu dises si jamais je rate ce coup, c'est la catastrophe industrielle.
Ils ont fait des joueurs à 20 millions.
Quand tu mets les 40 à 50 oui. millions, ça veut dire que tu peux le faire. Parce que si c'est comme le mec qui s'achète la Ferrari mais qui peut pas payer l'assurance et faire le plein, t'as l'air d'un con après, quoi, tu vois.
Ils ont fait des joueurs à 25.
Ça n'a pas été bien loin. Il n'y a pas eu de plus-value non plus avec ces joueurs à 25. Mis à part Memphis. D'ailleurs, ils ont pris Anderson.
Memphis, ça n'a même pas été 25.
Non, c'était 20, je crois.
Le gros transfert, c'est 30.
C'est Anderson et Thiago Mendes.
Et déjà, t'es en flip intégral avec Anderson parce que tu te demandes si t'as pas payé trop cher. Et probablement, t'as payé trop cher.
Non, mais de toute manière, le problème là, maintenant, c'est pas de savoir si tu prends un mec aussi cher maintenant. Là, ce qu'il faut, c'est garder la tête sur les épaules, essayer de trouver des solutions pour finir la saison et pour limiter la casse sur la fin de saison. Je pense que Rudy Garcia est un intérimaire au poste et que la révolution annoncée, qu'on nous annonçait avec Juninho, Silvinho et compagnie, et la mise en retraite de Jean-Michel Aulas, elle est décalée à l'été prochain, au meilleur des cas. Donc là, ce qu'il faut, c'est limiter la casse en championnat.
Est-ce que les joueurs à 40 et 50 millions sont intéressés par Lyon? C'est une question qui mérite
pas avec cet entraîneur.
Ça mérite d'être, voilà, avec un entraîneur un petit peu.
Ton entraîneur, c'est un facteur d'attractivité pour ton club. Et là, pour l'instant.
C'est pas le facteur, mais c'est l'un des facteurs.
Oui, c'est un des facteurs. Et je n'ai rien, je m'attarde sur Rudy Garcia, mais c'est, voilà.
Mais ça, c'est indéniable. Donc aujourd'hui, est-ce que Lyon attire un mec à 40-50 millions? Sachant que la première ligue, déjà, jusqu'à la 10e place.
Je vous ai souvent entendu dire dans cette émission que si tu le payais, plus que les autres.
Non. Sauf que quand t'as le choix, et surtout Lyon, il y a la situation au classement de Lyon. Quand t'es un joueur, tu viens, tu regardes le classement, tu dis ouais merde, s'il faut l'année prochaine, t'as difficilement la possibilité de lui faire miroiter la Ligue des Champions l'année prochaine.
T'as beaucoup de clubs devant Lyon. Déjà, t'en as au moins en première ligue plus d'une dizaine où t'es plus payé. Et la première ligue, déjà, ça attire beaucoup plus. Je sais pas si tu vas par là, un mec comme Eriksen est potentiellement sur le marché, parce qu'il est en fin de contrat, Tottenham, il va devoir partir et tout, mais est-ce que lui?
Mais non.
Ouais, mais après, si tu veux passer dans la galaxie supérieure, je pense qu'au bout d'un moment, tu vas être obligé d'aller dans ces tarifs.
Mais Damien.
Si tu veux faire de Lyon un européen, huitième, quart de finale, il va falloir que tu te lances.
Qu'il fasse venir du monde, il faut que t'envoies des messages, comme quoi ton club, parce que si le message que t'envoies de ton club, c'est j'ai machin sur le banc,
La première, c'est que ça pourrait être possible si Lyon était vraiment réalistement en position de se qualifier pour la Ligue des Champions. Parce que là, le joueur qui vient cet hiver, tu peux pas lui dire t'as la Ligue des Champions l'année prochaine. Et surtout, quand tu dis Damien passer un cap en faisant des gros transferts, oui, effectivement, mais il faut le faire dans des mesures comme en Angleterre, les clubs moins d'Angleterre qui surpayent des joueurs, que ce soit dans l'indemnité et dans le montant du transfert. Et je pense pas que Lyon soit en capacité, en étant un club coté en bourse, de faire dans les salaires.
Justement, on parle d'Angleterre rapidement. Un tour en première ligue, c'est terminé entre Liverpool et Sheffield. Clément Brossard.
Pour valider cette victoire des Reds, Salah à la 4e, Mané à la 64e, 2-0 pour Liverpool, 76% de possession, 19 tirs à 2. La victoire est totale, la 19e victoire en 20 matchs, 51e match sans défaite de suite à Anfield pour Liverpool, plus 13 au niveau des points sur les plus 14 sur City, tout ça avec un match en moins, jusqu'au 17 mai, jusqu'à cette 38e journée. Liverpool n'a jamais été aussi proche du titre, le premier depuis 1990.
Merci beaucoup Clément.
Salut, Clément.
Floris a fait le 32-16. Floris est supporter de l'OL. Bonsoir Floris.
Salut les gars, bonne année à toi.
Bonne année. Alors, quelle est ta sensation sur ce mercato à venir? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que ces deux blessures seront un peu irrécupérables pour la deuxième partie de saison?
Ah, je suis pas confiant, je suis absolument inquiet même. Ce qui se profile, c'est grave. Je pense que tout à l'heure Daniel parlait de l'image qu'on renvoie, mais je pense qu'on ne se rend même pas compte de l'image qu'on renvoie en Europe. Vous vous rendez compte, on accepte des offres de 30 millions pour Fekir et derrière on refuse 25 millions pour Toussaint et 20 millions pour Marcelo. Donc déjà à partir de ce moment-là, c'est dramatique.
Ah, les 20 millions pour Marcelo, ça m'a échappé, c'est quoi?
C'était l'été dernier, il me semble.
Je croyais que c'était cet hiver.
Là, 2 millions, ils le mettent dans la voiture, ils l'amènent à l'aéroport.
Encore une fois, bien sûr, c'est des offres qui sont difficilement refusables. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as les fonds pour prendre meilleur au même poste?
Je sais pas, mais bon.
Si tu bosses bien, tu dois avoir la possibilité de le faire.
Après, comment ça s'appelle, cet après-midi dramatique, il y a eu un communiqué de Lyon pour démentir l'offre de Dembélé. Donc autant dire que Moussa, la semaine prochaine, terminé, on le voit plus. Donc maintenant, si on récupère quoi, on va récupérer devant Giroud. Enfin, là, je comprends pas notre projet. La priorité pour moi, à l'instant T, c'est à l'arrière gauche. On a remplacé Ferland Mendy par Youssouf Koné, j'ai même pas les mots, et il n'y a aucune piste sur l'arrière-gauche. Enfin, bref, là, je suis vraiment inquiet.
C'est Maxwell Cornet, apparemment. Ton président veut qu'il joue arrière-gauche un peu plus souvent.
Parfait, et tout ça pour avoir donné les clés à Rudy Garcia. Et comme disait Jonathan, le projet va peut-être démarrer cet été avec Juninho, mais moi, je crois pas. Je crois que là, on est parti pour Rudy Garcia pendant la fin de contrat. Hein. On ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de devenir. Je suis absolument...
Et Floris, on a entendu Rudy Garcia parler d'un défenseur latéral et d'un joueur offensif. Quels seraient tes souhaits, là, comme ça, dans l'idéal, tes idées à toi?
On a parlé de Ziyech, mais bien sûr, serait énorme. Mais comme a dit Daniel, est-ce qu'on est capable de mettre un gardien?
Mais c'est même pas que le prix.
Comme latéral.
N'oubliez pas, il n'y a pas que le prix. Est-ce qu'aujourd'hui, Jonathan l'a dit tout à l'heure, un club qui n'est pas sûr de se retrouver en Ligue des Champions l'année prochaine, est-ce qu'un joueur comme Ziyech va être intéressé par Lyon, sachant que plein d'autres clubs peuvent faire appel à lui en Angleterre, en Allemagne, que l'Ajax, c'est supérieur à Lyon? Attention, ça paraît totalement improbable aujourd'hui.
Je suis d'accord.
C'est ça le souci.
Pour le poste de latéral gauche, j'ai une idée toute bête, mais qui serait gagnante. Je tente le coup, même si vous allez hurler de rire, je demande le prêt de Levin Kurzawa.
Non, moi ça me fait pas tant marrer que ça.
Ça me fait rire, mais en fait. Idée, c'est moi qui l'ai sortie il y a une semaine, celle-là. Mais faut le relancer.
Il a l'euro. Floris, ça te paierait?
Il peut être relancé.
Une bonne année, ma foi, Kurzawa, pourquoi pas.
J'essaie d'obtenir Zonzi en prêt et je laisse partir.
T'as relancé à ma vie, tu peux relancer Kurzawa.
Ouais. Non mais surtout
Zonzi, attention, le transfert Turquie-France.
Ouais. Et en pointe devant, si t'as Giroud et que écoute, pour finir la saison et pour limiter la casse, c'est pas plus mal. Et surtout c'est des joueurs que tu vas pas signer sur trop longtemps.
Qu'est-ce qu'on construit sur l'avenir avec ces mecs-là?
Mais là le projet c'est pas de construire cet hiver, c'est de limiter la casse sur la saison, Daniel. Tu verras cet été.
Après peut-être s'ils peuvent faire un coup, on verra. Attends, quoi qu'il arrive, on surpayer un transfert pour un joueur qui sera moyen. Ça, c'est, de toute façon, c'est une obligation, malheureusement.
Tente des prêts.
Mais les prêts, ça leur apporte rien. Ils lâchent des salaires. Il n'y a aucun investissement.
Et la vraie reconstruction, tu décides vraiment de la faire cet été.
Mais limiter la casse, qu'est-ce que c'est pour toi?
C'est essayer d'être européen, au moins.
Tu sais qu'aujourd'hui, vu l'état du championnat, ils sont capables d'être européens avec leur équipe d'aujourd'hui.
Là, avec leur équipe sans Memphis, sans Jeffrey Nadelaïd et sans latéral gauche, je sais pas.
Merci Floris d'avoir été avec nous et de nous avoir appelé au 32-16. On te souhaite une très belle année dans les
travaux
du Parc OL. Je vous parlais tout à l'heure de ce communiqué, je vous le lis. L'Olympique Lyonnais a pris connaissance de certaines informations relayées par des médias laissant penser que Moussa Dembélé pourrait intéresser d'autres clubs durant cette période de mercato. L'OL tient à réaffirmer son souhait, comme lors de l'été dernier, de conserver Moussa Dembélé. Le club a toute confiance en Moussa et compte notamment sur lui pour bâtir une équipe performante pour les saisons à venir. Il n'est pas un peu surprenant, ce communiqué?
Oui. Il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que si vraiment ils étaient si fermes que ça, ils auraient même pas réagi à des rumeurs, quoi, tu vois.
Ce que je veux dire, c'est que...
Pourquoi réagir à des rumeurs, là, en termes de sens, le message qu'ils envoient, c'est « Eh oh, il est sur le marché ».
J'ai le souvenir d'avoir vu ce genre de communiqué pour des entraîneurs, mais pour des joueurs.
C'est probablement ça, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à Lyon, la situation est telle qu'on se dit... alors qu'il y avait eu une belle offre pour Dembélé l'été dernier.
Exactement.
Si jamais on nous donne un peu de blé, ce serait pas une mauvaise idée de le laisser partir. Et puis à lui, tu peux ajouter Touzard. Et puis aujourd'hui, tu te demandes tout simplement qui t'as envie de garder à Lyon. C'est ça le problème. Qui t'as envie de garder? Qui tu peux garder?
S'ils ont un projet, un mec à 10 buts, ils doivent le garder.
C'est des faux buts. Enfin, Dembélé, très franchement, dans un club qui veut être à un haut niveau, tu prends pas Dembélé. Pour moi, son nombre de buts n'est pas significatif.
C'est surtout que là, t'enlèves Dembélé, t'as plus personne devant, c'est fini. Enfin, c'est le seul.
Évidemment, tu peux pas vendre tout le monde.
Tu peux pas le vendre.
C'est en fait qui potentiellement t'es sûr de vouloir absolument retenir.
Moi, je garde Donaïer.
Oussama Ward, Donaïer. Et Oussama Ward, quand même, les gars.
Ouais, je sais pas.
Ouais, non. Moi, genre, je sais pas. Aujourd'hui, la situation est telle au club que tu. C'est un vrai problème. Je trouve qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de convaincant sur les dernières saisons. Les supporters le savent, à Lyon. Ils se disent, hein. Ils disent, on a accroché des places en Coupe d'Europe, mais parce que le niveau de la Ligue 1 est faible. Mais on n'a pas l'impression de progresser. On ne grandit pas. On n'a pas de vrai taulier dans cette équipe. On a des mecs qui font. Ouais, voilà. Ouais, ok. On va dire. Allez, Donaï. Oui, on va quand même
Lopez
en trouver deux, trois.
Ouais.
On va en trouver deux, trois. Mais c'est pas suffisant. C'est pas ce qui devrait caractériser une équipe aussi forte.
C'est de repenser Lyon, juste à l'enthousiasme qu'il y avait en début de saison face à
l'Olympique Lyonnais. Je faisais partie des enthousiastes.
Bah moi aussi, mais bien sûr.
Ils ont cassé le truc avant même que ça démarre.
Non, mais ça, sur l'enthousiasme du début de saison, au bout d'un moment, coup de gueule, hop, Silvinho, ok, ça c'est pas bien parti, mais fallait pas croire qu'en trois mois, il allait tout révolutionner.
Mais évidemment,
pour moi,
je suis d'accord avec toi.
Eux, ils étaient dans le vrai, Juninho et Silvinho étaient dans le vrai en termes d'état d'esprit qu'ils voulaient inculquer à cette formation lyonnaise.
Mais personne n'a suivi.
Personne n'a suivi. Les joueurs n'ont pas suivi. On leur a mis les bâtons dans les roues et
lui,
aujourd'hui,
il était
planté.
Grand stress et ça, il le faisait. Il n'arrivait pas. Après, le truc de son inexpérience, ça a été que de pas contrôler son émotion, son stress par rapport au résultat.
Avant le derby.
Et ce fait que les joueurs
Ils en ont profité pour s'en séparer, les joueurs.
Voilà, messieurs, pour le mercato de l'OL. Évidemment, on va suivre ça de très très près avec toute la rédaction d'RMC tout au long du mois de janvier. On revient dans un instant pour vous parler de Première Ligue, le mercato show et puis le quiz à la fin de cette émission. À tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit. L'Afterfoot.
Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain. And so will we, with our Insights Hub to help you navigate the year ahead. Because deal or no deal, from Downing Street to the High Street, every business is part of something far, far bigger. Find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness.